Alors, si vous voulez me suivre, on va aller dans Genèse chapitre 1, versets 2 à 13. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue, d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des herbes fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. On va demander à Dieu de bénir notre étude pour qu'elle produise du fruit dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, nous venons à tes pieds. Tu nous as laissé ta parole qui nous éclaire sur tant de sujets, et plus particulièrement sur celui de la création, la manière dont tu as créé le monde, Seigneur. Les trois premiers chapitres du livre de la Genèse sont très importants à ce que nous les comprenions, que nous les saisissions correctement, de manière, Seigneur, à ce que nous t'honorions par notre foi. On te prie ce matin que ton esprit nous éclaire, nous guide, nous élimine l'intelligence, la compréhension de ta parole. Et aussi, Seigneur, à ce qu'on applique les principes qui sont contenus, les leçons qui sont contenues dans chacun des versets que tu veux nous enseigner ce matin. Seigneur, on veut te demander pardon pour nos péchés. Nous en avons tous commis, malheureusement, cette semaine. Nous en avons commis dans nos pensées. Nous savons à quel point, Seigneur, la pensée vagabonde et parfois nous amène des pensées vraiment indignes et pécheresses. Nous avons péché dans nos paroles, Seigneur, en manquant de charité parfois envers les autres. Nous avons manqué dans nos actions. Nous avons manqué aussi en omission, c'est-à-dire en n'accomplissant pas tous les commandements que tu nous donnes dans les Saintes Écritures. Et même, Seigneur, tu nous apprends dans les Écritures que nous avons péché parfois sans même s'en rendre compte. Alors, Seigneur, on veut te demander pardon pour tout cela ce matin avec toute la sincérité de nos cœurs. On veut implorer ta miséricorde et ta bonté, Seigneur, afin que tu nous donnes de la repentance, une repentance sincère, authentique, et aussi un désir de mortifier notre péché de plus en plus grand, de manière, Seigneur, à ce que nous vivions une vie qui t'honore par notre sanctification et par notre amour de ta personne, notre amour aussi des Saintes Écritures. Alors, Seigneur, éclaire-nous, guide-nous, sois avec nous, manifeste ta présence parmi nous avec force et puissance ce matin. On te le demande par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, on va faire une révision de ce qu'on a vu la semaine dernière, de manière à ce que ça fasse une leçon complète. On avait dit que le titre était « Le trois premiers jours, l'arrière-plan du drame créationnel ». Alors, une des idées qu'on voulait rappeler, c'était que certains auteurs, en regardant le livre de la Genèse, voulaient nous rappeler que le livre de la Genèse n'est pas nécessairement un livre de science. C'est un livre qui veut nous présenter la personne de Christ à venir. Bien entendu, quand on regarde les trois premiers chapitres de la Genèse, il faut garder à l'esprit, quand on dit c'est l'arrière-plan du drame créationnel, donc Dieu veut nous montrer comment il a créé le monde, comment l'homme est apparu, de quelle façon il l'a créé, et l'ordre dans lequel il fait apparaître les choses pour que l'homme apparaisse un jour, et après on va voir dans le chapitre 3 la chute et les conséquences que la chute a eues. Mais tout cela, dans le chapitre 15, déjà le Seigneur nous donne une idée de la venue future, la venue prophétique du Messie. Alors, il faut vraiment regarder le livre de la Genèse en gardant ça à l'esprit. C'est très important. Alors, on avait vu que pour que Dieu amène, on avait vu dans le premier verset qu'il avait créé les cieux et la terre. Et on avait vu dans la leçon précédente jusqu'à quel point les cieux, c'est une chose extrêmement grande, et la terre, avec tout ce qu'elle comprend dans toutes ses dimensions, la vie végétale, animale, tout cela. Et c'était, plus on étudie ça, plus on comprend la grandeur de l'univers et la quantité de variété de vie qu'il y a sur la terre, et la complexité aussi du monde infiniment grand autant que le monde infiniment petit, ça nous fait apprécier encore davantage la création du Seigneur. Alors, pour que l'homme apparaisse, alors l'homme n'apparaîtra pas dans les trois premiers jours. On a vu, on va le voir, ce que Dieu a créé dans les trois premiers jours. La semaine prochaine, on va regarder ce qu'il a fait dans les trois derniers jours. Et on sait que le sixième jour, c'est là que l'homme est apparu. Mais pour qu'il apparaisse, il fallait que Dieu prépare, on pourrait dire, le terrain. Il fallait que, parce que ça disait le verset 2, la terre était informe et vide, qu'il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Donc, il fallait que l'Éternel prépare la venue de la vie animale et la vie végétale et aussi la vie de l'homme. Il le fait graduellement. Alors, ce qui est intéressant de voir là-dedans, c'est qu'on peut considérer les trois premiers jours comme l'arrière-plan. Dieu prépare la venue de l'homme. Alors, les trois premiers jours, c'est comme s'il créait l'arrière-plan. Et les trois derniers jours, il va mettre les acteurs en place, ceux qui vont avoir un rôle à jouer dans tout ce qu'on peut appeler le drame créationnel. Alors, on avait vu que la mort physique était entrée, on a vu ça rapidement la semaine dernière, juste pour faire un bref rappel, que, on le sait, il y a eu la chute d'Adam et de Ève dans le chapitre 3 de la Genèse, c'est raconté un petit peu en détail, et déjà Dieu, tout de suite après la chute, avait prophétisé la venue future de celui qui était capable de régler le problème énorme que ces deux personnes-là avaient amené dans le monde, non seulement dans leur monde à eux, mais dans tous les siècles à venir qui concernaient toute l'humanité sans exception. Autrement dit, à cause de la chute d'Adam, tous les hommes méritaient de la mort physique. On sait qu'on va tous mourir, et même qu'une personne soit riche, puissante, elle est ce qu'elle voudra, elle va y passer pareil. Dieu est juste et tout le monde va mourir. Mais ça l'avait amené autre chose. Dieu avait dit que si tu manges du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Et ça ne veut pas dire uniquement, parce que c'est l'ensemble des Écritures qui nous décrivent les conséquences. Alors les conséquences, c'était aussi la mort spirituelle. Alors l'homme, on parle de la mort spirituelle comme étant une séparation d'avec Dieu. Donc, l'être humain, quand il vit au monde, il est pécheur, il a hérité ça d'Adam et Ève, et il est lui-même pécheur et séparé de Dieu. Alors, là, il faut que, s'il veut vivre avec l'Éternel dans le ciel pour l'éternité, il faut que la communion soit rétablie. Et il y avait une seule façon de régler cet immense problème qui était amené par Adam et Ève, c'était la venue du Messie, Jésus-Christ. Alors, tout l'Ancien Testament, si vous lisez les Écritures, tout l'Ancien Testament parle de la venue future de Christ, tandis que le Nouveau raconte comment Jésus est venu sur cette terre et l'œuvre qu'il a fait pour nous libérer de cela. Alors, non seulement il y avait la mort, et la mort physique, la mort spirituelle, mais il y avait aussi, ça l'amenait aussi en même temps, la mort éternelle. C'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas réconcilié avec Jésus-Christ et qu'il décède dans cet état, les Écritures nous apprennent que sa destinée éternelle, ça va être dans le lac de feu pour l'éternité. Alors, c'était les trois, la mort avec, dans ces trois dimensions que Adam et Ève emmenaient. Alors, il fallait vraiment une solution. Et quand le malin a réussi à faire tomber Adam et Ève, il savait que tous les enfants qui suivraient la descendance mourraient physiquement. Alors, il n'était pas supposé de mourir physiquement. Si Adam n'aurait pas péché, il ne serait jamais mort, parce qu'il était sous la protection directe de Dieu. Il ne se serait pas séparé de Dieu et sa descendance n'aurait pas hérité de la mort éternelle. Alors, il fallait une solution et Satan devait être certain qu'il avait gagné. Il devait se taper, il devait penser qu'il n'y avait pas de solution à ce problème-là. Mais Dieu est capable de régler des problèmes importants qui impliqueraient les élus, que Dieu, pour une certaine partie de l'humanité, amènerait une solution. Et cette solution-là serait dans son Fils Jésus-Christ, qui nous donnerait la justice que Dieu exigeait, chacun d'entre nous, et que nos péchés, qui sont si nombreux, soient payés par quelqu'un qui était Jésus-Christ. Ce qui est important de se rappeler, quand on dit que les trois premiers chapitres de la Genèse sont importants, quand Christ est venu sur la terre, quand il y a eu la crucifixion, la résurrection, quand il y a eu les disciples d'Emmaüs, il s'en allait, qu'est-ce qu'il leur a dit? Quand on regarde dans Luc 24, le verset 27, Jésus a dit, « Et commençant par Moïse, c'est vraiment à partir de la Genèse, et par tous les prophètes. » Alors, il y a beaucoup dans les Écritures, il y a les grands prophètes, il y a les petits prophètes, les cinq grands prophètes, les 12 petits prophètes. Tous ces gens-là parlent d'une façon ou d'une autre de la venue prochaine, de la venue future de Jésus-Christ. Alors, c'est ça qu'il a fait avec les disciples d'Emmaüs. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ça devait être hyper intéressant. Parce que souvenez-vous qu'après, les gens, qu'est-ce qu'ils ont dit? On dit, on sentait notre cœur brûler à l'intérieur de nous. Pourquoi? Parce que l'explication venait d'on ne peut pas avoir un meilleur professeur que Jésus-Christ. Alors, les Écritures, il les connaît. Alors, il les expliquait aux gens, et bien sûr que ça devait leur amener une... Parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui s'était passé à Jérusalem. Jérusalem, il avait pris un homme que beaucoup de personnes croyaient être le Messie, et ils l'ont crucifié. Et il est mort. Pour eux, ils ne comprenaient vraiment pas, parce que pour eux, c'était le Messie, c'était une personne militaire qui sortirait. Ils le voyaient comme un roi, il avait raison. Ils le voyaient comme un roi, mais c'était un roi terrestre, un roi temporel qui viendrait régler leurs problèmes politiques. Et un homme mort, ça ne peut pas régler des problèmes politiques. Alors, toutes les personnes qui avaient cru en la personne de Jésus, comme quand il avait rentré l'entrée triomphale à Jérusalem, tout le monde criait au fils de David. L'expression au fils de David veut dire Messie. Alors, ils reconnaissaient Jésus comme leur Messie, mais quand une personne est crucifiée comme de la pire manière, à l'époque, c'était la pire manière que quelqu'un pouvait mourir, est crucifié, ils disaient, ben là, c'est quoi? On s'est trompé. Et là, Jésus est en train de leur ouvrir l'esprit à la compréhension que le Christ qui était annoncé dans les Écritures, ce n'était pas le type de roi qu'eux attendaient. Alors, Romains chapitre 5, verset 14, « Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, de même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est une figure de celui qui devait venir. » Voyez-vous, on a parlé la semaine dernière, on revient là-dessus, c'est important. Parce que si on ne croit pas qu'il y a eu un seul homme, l'arrivée, la création par Dieu lui-même de façon directe d'un homme qui s'appelle Adam, les versets dans 5 et dans 1 Corinthiens 15, quand on parle de Christ comme le second Adam, donc le premier Adam, il a rentré les problèmes dans le monde, le second, ils ont réglé. Alors, si on ne fait pas le parallèle entre le premier et le dernier Adam, si on dit qu'Adam, c'est tout simplement le fruit d'une évolution, bon, à un moment donné, il est sorti de l'océan, des fois, on voit ça quasiment des petits comiques, là. Il sort de l'océan, puis là, à un moment donné, là, ça devient une grenouille, puis ça devient tout ce que tu voudras, des poissons, des oiseaux, et à un moment donné, ça devient un singe, et à ce moment-là, la mort serait arrivée avant le premier Adam. Alors, ça ne tient pas debout. Théologiquement, c'est indéfendable comme position. Mais alors, c'est en train de dire que le premier Adam a vraiment existé et que les Écritures, Paul, fait un parallèle entre le premier et le deuxième Adam pour faire comprendre comment le péché est rentré et aussi comment faire comprendre aux hommes comment le péché a été réglé par Christ, le second Adam. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 21 à 23 et 45 à 49, c'est important parce que 1 Corinthiens 15, justement, parle de ces choses-là. Car puisque la mort est venue par un homme, voyez-vous, la mort n'est pas venue par une série de personnes qui sont mortes avant toi et par une série d'évolutions. Ici, Paul est clair, il dit, car puisque la mort est venue par un homme, quel homme? Adam. C'est aussi par un homme, donc Christ était à la fois, il y avait une particularité par exemple, Christ était à la fois homme et Dieu, avec le trait d'union, mais le trait d'union fait en sorte qu'il avait, cet homme-là, deux natures, la nature humaine à la perfection, il était homme par exemple nous, mais il y avait aussi, il était Dieu, donc homme-Dieu, quand il est venu sur la terre, c'était Dieu qui s'incarnait dans une chair d'homme. Alors, quand ça dit, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Voyez-vous, il y a un passage dans le livre de Corinthiens qui nous dit que si la résurrection n'existe pas et que si la résurrection n'est pas vraie, notre foi est vaine. Ça veut dire que si on ne croit pas que Christ est ressuscité, tu te souviens de dire que notre foi, ça n'existe pas. Parce que tout notre espoir, toute notre espérance est basée sur le fait que... Alors, dans le verset 22, ça dit, « Et comme tous meurent en Adam, le premier, tous meurent en lui, mort physique, mort spirituelle, mort éternelle. » Tous! Ça veut dire que tout le monde qui vit au monde hérite de cela. De même, aussi, tous revivront en Christ. Il ne parle pas de l'humanité au complet, il parle de tous les élus vont passer par, vont revivre, mais pas par eux-mêmes, à cause de Christ. Verset 23, « Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » Autrement dit, toute la question de la résurrection, de retrouver nos corps, même si le corps a été brûlé, même si le corps a été jeté dans le fond de l'océan, le Seigneur est capable de ramener les corps. Et là, d'unir pour l'éternité, parce que ceux qui sont dans le ciel, alors actuellement, c'est juste leur âme qui est là. Le corps n'est pas là. Le corps va être réuni à l'âme uniquement à l'avènement de Christ, donc à sa deuxième venue. Là, va s'accomplir ce miracle-là. Et à partir du verset 45, dans 1 Corinthiens 15, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, quand il parle de qui, quand il parle du dernier Adam? Dans le contexte, il parle de Jésus-Christ, est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Donc le premier Adam était homme animal, le deuxième Adam est considéré comme l'homme spirituel. Alors, verset 47, « Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel, donc il est céleste. Verset 48, « Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. » Alors, quand on comprend mal, déjà dès le premier chapitre, des Écritures, si on introduit l'évolution là-dedans, on est en train de tout briser ces comparaisons-là, ces parallèles-là qu'on fait. Il faut prendre conscience de cela. Il faut vraiment prendre conscience de cela. Alors, on avait vu que fallait que Dieu prépare le terrain pour l'apparition de la vie et l'apparition de la vie humaine en particulier. Alors, on avait vu dans Genèse 1, verset 2 à 5, que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, et que la lumière était bonne, et il avait séparé la lumière avec les ténèbres. Dieu avait appelé la lumière jour, il appelait les ténèbres nuit, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. On avait parlé la semaine dernière aussi de la pseudo-difficulté que les libéraux amènent. Ils disent, comment on peut dire qu'il y avait de la lumière alors que le soleil a été créé plus tard? Voyez-vous le genre de stupidité qu'il amène? Parce que dans le fond, c'est une stupidité, parce que les Écritures nous enseignent que Dieu est lumière. Y avait-tu besoin de créer le soleil pour avoir de la lumière? Il est lui-même lumière. Alors, c'est un argument qui ne tient pas debout et qui est basé uniquement sur l'incrédulité. Alors, 1 Jean, chapitre 1, verset 5, nous dit « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de lumière. » Quand le monde va être terminé, que tous les êtres humains régénérés vont aller au ciel, est-ce qu'il va y avoir besoin du soleil dans le ciel? Les Écritures nous disent en Apocalypse 21, verset 23, « La ville, parlant de la Nouvelle Jérusalem, n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. » C'est qui l'agneau? Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ est son flambeau. Alors, Jésus-Christ est lumière, lui aussi, parce qu'il est Dieu. Donc, à quelque part, ils n'ont pas besoin de la lumière créée par les hommes, ou même par Dieu. Apocalypse 22, verset 5, « Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. » Alors, on avait vu la semaine dernière que la lumière était une œuvre divine, bien sûr. Et dans Ésaïe, chapitre 45, verset 7, ça dit, le Seigneur lui-même parle, il dit, « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. » Alors, imaginez-vous le genre d'autorité que ça prend pour juste, avec ta parole, créer la lumière. Alors, c'est vraiment quelque chose extraordinaire. Alors, 1 Timothée, chapitre 6, verset 16, nous dit aussi que en Dieu, Dieu est lumière et qu'il n'y a pas... Dieu habite la lumière, qu'il nous dit 1 Timothée, et qu'en qui il n'y a pas de ténèbres. Il habite une lumière inaccessible. Alors, bien entendu, tout cela nous montre que Dieu peut dissiper les ténèbres sans faire appel au soleil, sans faire appel à la lune, sans faire appel aux étoiles. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans le livre que je me sers pour préparer les leçons, l'homme me dit, moi je ne pourrais pas dire sur quel fait scientifique il se base, mais la science moderne nous dit aussi, confirme l'existence de la lumière avant celle du soleil. Je me demande comment ils font pour déterminer ça, puis prouver ça scientifiquement, mais il l'annonce, alors je crois que ça doit être vrai. Il faudrait que je vérifie avec l'auteur ou qui a pris cette information-là. Alors, la lumière, c'est une œuvre divine, et dans les versets 4 et 5, on voit que la lumière est appréciée par le Seigneur. Ésaïe 45, verset 18. « Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. » Alors, le verset est en train de nous dire que le Seigneur a préparé la terre pour qu'éventuellement elle soit habitée. On avait vu un petit peu la semaine dernière le côté mystérieux de la lumière. Ça paraît tellement simple, la lumière. On vit avec, on est habitué, on en profite chaque jour. Mais est-ce qu'on comprend l'aspect mystérieux, l'aspect glorieux qu'il y a à l'intérieur même de la lumière physique? On avait parlé la semaine dernière du laser, par exemple. Un laser, c'est tout simplement de la lumière concentrée qui, quand est faite correctement, ça peut couper du métal. Du métal, des portes d'acier. Hey, on parle de la lumière. C'est juste une façon de la concentrer, de la stimuler, parce que ça veut dire l'amplifier et la stimuler pour arriver à faire ça. Alors, ça a une quantité d'énergie incroyable. Alors, on a, la lumière a aussi un côté qu'on pourrait dire magnifique, dans le sens que si on voit les belles couleurs qu'on voit, qui d'entre nous n'a jamais été charmé par un paysage extraordinairement beau? Ou surtout l'automne, je dirais. Moi, je me souviens d'une promenade qu'on avait faite un samedi après-midi dans le Maine, dans le mois de septembre, fin septembre, sur la beauté des couleurs qu'il y a là. Parce que le Maine, quand on rentre dans le Maine par le lac Mégantic, là, c'est toutes des anciennes routes très sinueuses, très côtes et vallons, avec plein de petits étangs, de petits lacs. Mais quand les feuilles sont à leur maximum de beauté, là, c'est éclatant. Tu te promènes là-dedans quand il fait beau un samedi après-midi et tu sors de là, quand tu as vu ça pendant une journée, là, t'es presque étourdi de beauté. C'est incroyablement beau. Mais qu'est-ce qui fait qu'on voit les couleurs? C'est la lumière. Dieu permet qu'à cause de la lumière, on puisse percevoir toutes ces choses-là. Alors, il y a un côté magnifique et il y a un côté aussi, bien entendu, utile et essentiel. Alors, on se rappelle que tout cela, c'est universel. Peu importe dans le pays où tu vas te trouver, il va y avoir un matin et un soir. Et elle est gratuite, la lumière du Seigneur, et elle est aussi bienvenue. On aime tous la lumière. Alors, on lit, par exemple, dans le psaume 130, au verset 6, « Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. » Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, la garde de nuit. Quand on est militaire, des fois, ils nous donnent de garder quelque chose pour la nuit. S'il y a quelque chose d'ennuyant, c'est bien de rester debout durant toute une nuit alors que tu t'endors. T'as hâte que le matin arrive. Puis quand tu vois les premiers rayons du soleil se lever, tu lèves le pouce en l'air, ça c'est sûr et certain. Alors, on aime la lumière. Et la chose intéressante à faire avec la première création de Dieu, c'est de la mettre en parallèle avec le côté spirituel de la lumière. Parce que les Écritures utilisent le thème de la lumière physique pour faire un parallèle avec le monde spirituel. Par exemple, quand ça nous dit dans le chapitre 5 d'Éphésiens, « Autrefois, » il parle de nous, là, « dit, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. » Veux-tu dire que moi, je peux me promener la nuit, là, puis que parle de la lumière spirituelle à cause du fait qu'on est sauvé, qu'on est régénéré, qu'on appartient à Jésus-Christ. La lumière, puisque son Saint-Esprit nous habite, donc à quelque part, il y a la lumière spirituelle en nous. Alors, Paul utilise souvent l'expression qu'on est une nouvelle création. Comme quand il dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, « Vous êtes une nouvelle création. » À quelque part, quand il nous régénère, à cause du fait qu'il nous fait habiter par le Saint-Esprit, on a maintenant la lumière en nous, les ténèbres sont dissipées. On avait vu la deuxième chose que le Seigneur avait créée, c'était l'atmosphère, dans les versets 6 à 8, qu'il y ait une étendue. Alors, à quelque part, c'était comme s'il y avait bien de l'eau qui couvrait toute la terre, et il fallait que la terre, comme elle sorte, il y avait des continents qui sortent. Alors, il a séparé tout ce qu'il y avait comme eau pour que la terre apparaisse. Alors, l'étendue, c'était une œuvre divine, bien entendu, parce que Dieu dit qu'au deuxième jour, il a séparé l'étendue, il a séparé les eaux. Alors, il a vraiment créé ce qu'on appelle l'atmosphère. Dans le psaume 19, verset 2, on dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue ». Dans la King James, en anglais, c'est « the firmament ». « The firmament manifeste l'œuvre de ses mains ». Dans l'étendue, dans l'atmosphère, on peut voir l'œuvre de Dieu, la gloire, ça raconte sa gloire. Dans le psaume 104, verset 2, ça dit « Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, il étend les cieux comme une tenture. » Donc l'atmosphère, c'était quelque chose qui était aussi un autre élément qui était indispensable à la vie. L'air. Alors, il a créé l'air. Si on n'avait pas d'air, ni les animaux, ni les plantes, ni nous, on pourrait vivre. Elle est aussi utile, l'atmosphère, parce qu'elle transmet le son. On pourrait créer un milieu dans lequel on enlèverait l'atmosphère, même si tu crierais à pleine tête, tu serais juste en face de moi, tu comprendrais absolument rien. Parce que c'est l'air qui conduit les ondes audio. Donc, non seulement elle fait ça, mais aussi l'atmosphère va disperser les nuages. Sans l'atmosphère, il n'y a pas de pluie, pas de neige, pas de rosée. Donc, l'atmosphère va aider l'homme dans ses activités, qu'elles soient de nature chimique, commerciale ou scientifique. Bien entendu, elle aussi, elle est gratuite. Et, chose intéressante, c'est qu'elle est obéissante à la volonté du Seigneur. Psaume 148, versets 7 et 8. « Louez l'Éternel du bas de la terre, monstre marin, et vous tous, abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vents impétueux, qui... » exécuter ses ordres. Et ce qui est intéressant quand on lit le Nouveau Testament, ici on parle de Dieu sans fermentation, si on parle de Dieu le Père, de Dieu le Fils ou de Dieu le Saint-Esprit. Mais quand Jésus est venu sur la terre, c'était-tu le côté merveilleux de voir la tempête pogne sur un lac, les apôtres, ils paniquaient, étaient sûrs qu'ils étaient pour mourir. Seigneur, on périt! Fais quelque chose! Il se lève, mère, calme-toi. Alors, la voix du Seigneur commande aux éléments. Alors, ça peut être, comme on a vu, feu. Donc, ici, dans le contexte, on pense que c'est des éclairs. Grêle, neige, brouillard, tout ça est sous contrôle. Alors, bien entendu, aujourd'hui, la science, avec sa météorologie scientifique, croit qu'elle est capable de comprendre tous ces phénomènes-là. Pourquoi ils se trompent si souvent? C'est parce qu'ils sont vraiment capables de vraiment... Parce que c'est Dieu qui commande. Alors, ils sont capables d'accumuler des connaissances, des statistiques, mais ils ne peuvent pas vraiment comprendre comment tout cela est contrôlé. Les Écritures nous disent que les éléments exécutent les ordres de l'Éternel. Alors, ce qu'on faisait remarquer dans la leçon de la semaine dernière, est-ce que nous sommes reconnaissants pour l'air qu'on respire? Est-ce qu'on a déjà remercié Dieu pour l'air qu'on respire? Est-ce qu'on se rend compte que c'est une grande bénédiction? Est-ce qu'on a déjà loué le Seigneur pour ça? Et là, on était rendu au point 3, et on est rendu là. Alors, le point 3, c'était la création de la terre ferme, des mers et de la verdure. Ça dit, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Et Dieu appela le sec terre et l'appela la mare des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce, Dieu vit que cela était bon. C'était un soir, c'était un matin, ce fut le troisième jour. Intéressant la question que Dieu a mis dans l'herbe, dans les fruits, ce qu'il faut pour que tout cela continue par eux-mêmes. Disons, quand il dit, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Je me souviens, quand j'étais à l'école biblique, il y avait un ami qui avait pris un pamplemousse, il l'avait coupé en deux, puis il avait pris une graine de pamplemousse, puis il m'avait dit, « Marcel, j'aimerais ça que tu mets ça dans un pot de terre, puis que tu l'arroses régulièrement, puis j'aimerais ça pour voir combien de temps va durer. » Hey, j'avais mis ça sur la terre, dans la terre, et c'était venu, c'était vraiment un petit... c'est comme un arbre. Alors, Dieu a fait en sorte que les fruits et les semences sont contenus à l'intérieur même pour que tout cela... Il y a une sagesse énorme là-dedans. Il y a une sagesse. On devrait se réjouir de cela. Alors, bien entendu, Dieu a voulu qu'il y ait une terre ferme. C'est intéressant aussi la question, quand on le regarde sous un autre angle avec d'autres versets, dans Job 38, par exemple. « Qui a fermé la terre, la mer avec des portes? » Bon, quand on dit « on va sur le bord de la mer, est-ce qu'on voit des portes? » On ne voit pas de portes nécessaires. Mais il semble que la science a établi que le niveau de la mer est plus haut que le niveau de la terre. Normalement, ça devrait s'en venir sur nous autres. Qu'est-ce que les Écritures nous disent? Qui a fermé la mer avec des portes, quand elle s'élança du sein maternel, quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, c'est ici que s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Intéressant. Parce que c'est Dieu qui a permis que des choses, des phénomènes qui nous sembleraient illogiques, mais c'est parce qu'il y a une loi divine en arrière, c'est bien simple à comprendre. Alors Dieu, dans sa toute-puissance, a assigné aux eaux leur place, les mers, les lacs, les rivières, les ruisseaux, tout le système, on pourrait dire, aquatique de la terre s'est distingué d'avec la terre. Alors, c'est tout ça qui a permis qu'un jour, on puisse avoir une terre qui est capable de nous nourrir, qui est capable d'être agréable pour vivre à l'intérieur. Alors, ça dit qu'il a créé les mers. Donc, on imagine-tu, ça doit être des connaissances qui sont connues aujourd'hui par la science, le poids de la grosseur de la terre, avec de l'eau, pour que Dieu dise juste avec sa parole qu'il fasse sortir les continents, puis que les eaux prennent leur place de façon comme il voulait que ça soit. On imagine-tu la force, la puissance que ça peut prendre pour être capable de faire une chose pareille? Alors, bien entendu, l'eau, on le sait, c'est un élément essentiel à la vie aquatique, animale et humaine. Les mers ont contribué à la découverte des continents, ont contribué à la découverte des pays, au transport, depuis le temps qu'il y a du transport maritime, à la nourriture de la vie, à l'hygiène, à la production d'énergie. La baie James, nous, au Québec, on est reconnu pour ça, un des pays où on a su harnacher le pouvoir de l'eau avec les barrages. Alors, donc, ça nous donne de l'énergie. Si on a de la lumière aujourd'hui, ça vient de l'eau, d'une façon que l'homme a trouvé de contrôler cette force qui est énorme. Ça a contribué aussi à l'agriculture. Ça a contribué à nos loisirs. Qui ne s'est jamais amusé sur un lac, dans une rivière? Alors, ça a contribué aussi à l'établissement des frontières naturelles. Les frontières, quand vous regardez la plupart des pays sur des cartes géographiques, les frontières, c'est presque toujours des rivières. Une rivière qui va séparer, je ne sais pas, les États-Unis du Mexique, qui va séparer un État d'un autre État. Si vous étudieriez l'ensemble des divisions des pays dans le monde, vous verriez que le rôle que jouent les cours d'eau est énorme. Donc, ça, c'était prévu par Dieu aussi. Et, bien entendu, c'est aussi, il y a une multitude d'autres usages qu'on pourrait parler de l'eau. L'homme, on commence à parler au 21e siècle des problèmes que les hommes peuvent avoir éventuellement par manque d'eau. Actuellement, on gaspille, on gère mal l'eau. Et il y a des pays qui commencent à avoir des problèmes avec ça. Les États-Unis, entre autres. L'autre jour, j'écoutais un reporter à la télévision sur l'agriculture dans le sud, en Californie. Ils commencent à avoir des problèmes énormes avec l'eau. Je ne comprends pas tout comment, pourquoi, mais il reste qu'on est rendu là. Le 21e siècle, on a dit souvent que l'eau deviendrait l'or. L'or, ça va être comme l'équivalent du pétrole. On va devenir une nation qui va avoir de l'eau, va être une nation puissante, une nation riche. Alors, une appréciation divine. Et il a dit aussi qu'il avait créé la végétation. S'il y a un monde que vous pourriez passer votre vie à étudier, le monde végétal, des centaines de milliers de variétés, c'est étourdissant. Étourdissant. Il y en a qui ont passé leur vie à étudier uniquement cet aspect-là, la vie végétale, et c'est d'une diversité et d'une beauté incroyable, et certaines espèces sont pour notre nourriture, d'autres sont pour notre guérison. Le Seigneur a tout fait avec un but et c'est plein de sagesse. Alors, tout a été donné à l'homme pour maintenir sa vie, sa santé, la beauté de la création, le commerce et aussi le bien-être des nations. Dieu a dit, dans les versets 10 et 12, « Dieu vit que cela était bon. » Alors, on peut faire aussi une application, comme on avait parlé, on peut parler de l'appréciation divine, mais on peut parler aussi d'une application divine de la création des mers et de la végétation. Le Seigneur Jésus lui-même nous enseigne que la nature est une grande pédagogue. Ce que j'aime quand je lis les puritains, sont des enseignants qui ont vraiment un don, je ne sais pas, probablement qu'ils ont acquis ça à l'observation de la manière dont Jésus enseigne. Jésus enseigne souvent en utilisant des images de la nature. Va aller voir la liste des champs. Et dans l'Ancien Testament, va voir la fourmi paresseuse. Parce que quand on l'observe attentivement, la nature nous enseigne une multitude de leçons. Alors, c'est une grande pédagogue. Regardez Jésus quand il dit « Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, plus forte raison, gens de peu de foi? » Il nous parle à nous, là. Gens de peu de foi. Il est en train de nous dire, si Dieu est capable de s'occuper d'un lys qui est plus bien habillé, si tu prendrais le temps de l'examiner dans sa structure, dans sa beauté, dans ses couleurs, le Seigneur Jésus, dans son évaluation et dans son jugement, dit que Salomon, dans toute sa gloire, et Salomon ne devait pas être habillé avec une poche de patates, là. Il devait être habillé avec tout ce qu'il y avait de plus beau à l'époque, il dit que le lys des champs, si tu sais l'observer, si tu sais regarder tout ce qui le concerne, il est plus beau que le plus bel habillement des hommes. Alors, la nature est remplie de beauté du Seigneur. Moi, je me souviens une fois, un dimanche après-midi, j'avais été à Bromont, et on passait dans des champs. C'était des champs de genre de petites fleurs oranges. C'était tellement beau. À l'île d'Orléans aussi, des fois, on faisait le tour de l'île. Et l'été, là, les champs, il y a des champs de certaines couleurs de fleurs, sont toutes jaunes. Un moment donné, tu vas voir un autre, ils sont toutes blanches. C'est magnifique, c'est magnifique. Surtout qu'il y a un petit peu de vent, ça fait un petit peu danser tout cela, qu'on pourrait dire. Dans Matthieu 7, versets 24 à 27, pour démontrer que oui, c'est plein d'enseignements, la nature nous enseigne plein de choses. Matthieu 7, versets 24 à 27, c'est le Seigneur encore qui parle, il dit, c'est pourquoi « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Voyez-vous, il parle d'éléments, il parle de la nature. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. On sait tous c'est quoi un torrent. Mais il utilise des images de la nature pour nous faire comprendre des idées spirituelles. Après ça, il dit « Les vents ont soufflé. » Donc, la pluie, les torrents, les vents sont des éléments que le Seigneur lui-même utilise pour nous faire comprendre des principes. Ils se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée, sa ruine était grande. Et on pourrait multiplier les exemples. Quelqu'un pourrait faire une brique, aller la chercher tout ce que les Écritures nous parlent sur les animaux, sur la végétation, sur toutes sortes d'aspects pour nous faire comprendre qu'il y a des parallèles spirituels à tout cela. Souvent, ce que je vais voir, par exemple, dans les puritains vont souvent utiliser cela pour nous parler de réalité spirituelle. Ils vont dire, par exemple, je me souviens d'une chose en particulier, j'ai déjà lu deux autres. Ils disaient, vous remarquez que quand toutes les feuilles tombent à l'automne, il y en a toujours quelques-unes, on dirait qu'elles sont tenaces puis ne tombent pas. Mais ils disaient, vous remarquez quand est-ce qu'ils tombent, ces dernières-là, qui on dirait qu'ils s'acharnent, qu'ils ne veulent pas tomber. Ils s'acharnent quand la nouvelle vie arrive. Alors, ils faisaient des applications pratiques à partir de ça, en voulant dire, tu sais, la vieille vie finit par tomber quand la nouvelle vie prend toute sa place. C'est tellement intelligent, moi j'aime beaucoup les personnes qui... Parce que c'est vivant, hein, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, quelque chose qu'on comprend très bien. Alors, quelles sont les applications qu'on peut faire à partir des versets 2 à 13 du chapitre 1 de la Genèse? La première... Je dirais, rendons grâce à Dieu pour la lumière, la naturelle comme la spirituelle. La nature est remplie de merveilles pour l'entretien de la vie et la diffusion de la beauté. La spirituelle nous parle de Christ. Ésaïe 49, verset 6. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Voyez-vous, ici, il parle prophétiquement de Jésus-Christ. Il dit, « Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Il parle de Christ. Et quand tu parles de lui, il dit, « Je t'établis pour être la lumière. » Puis quand on arrive dans Matthieu, dans les premiers livres, qu'est-ce que les gens... La lumière, les gens, dans Jean, par exemple, dans l'épître de Jean, dans les premiers versets, et la lumière, on parle de la lumière, de Christ. Christ est la lumière. Alors, c'est ça que, dans Jean 1, versets 1 à 5, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. On parle-tu de la lumière physique ou on parle de Christ? On parle de Christ. Christ est venu, il était la lumière, et les ténèbres ne l'ont point reçue. N'en ont pas voulu de la lumière. Alors, les Écritures nous commandent d'être, nous, quant à nous, des enfants de lumière. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 4 et 5. « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. » Deuxième application, l'atmosphère nous fournit de nombreuses raisons de rendre grâce. l'air que nous respirons, le fait que l'atmosphère transmet le son et la lumière, le fait qu'elle contribue à nous donner la neige, la pluie, la rosée, et le fait aussi qu'elle contribue à notre bien-être d'une multitude de façons, pour le commerce, pour l'industrie, pour les réactions chimiques, etc. On s'arrête pas souvent à penser à ça, mais cependant, c'est là pareil. Troisième application, toute une vie est requise pour apprécier les différentes facettes et richesses de la terre, des mers et du règne végétal. Obéissons à Christ qui nous rappelle que la nature est une grande pédagogue. Parce que, pourquoi elle nous dit que c'est une grande pédagogue? Parce que la nature, elle obéit à Dieu. Alors, elle a de quoi nous enseigner, parce que nous, c'est pas toujours notre cas. Elle reflète aussi la bonté et la sagesse de Dieu. Parce que suffit de regarder soit le ciel, ou soit la végétation, ou soit la beauté des animaux, des oiseaux, des paysages, pour se rendre compte que c'est tout ça est le fruit de la bonté et de la sagesse de Dieu. Et aussi de l'infinie variété des formes de vie et de ses utilités. Quand on regarderait, il faudrait faire un inventaire de tout ce qui est vivant, puis de quelle façon ça sert à l'homme, c'est énorme. Alors, la nature elle-même est remplie de raisons pour nous rappeler qu'on se doit de remercier l'Éternel pour tout ce qu'il nous a donné. Que notre glorieux, souverain et tout-puissant Seigneur soit loué, béni et adoré pour ses infinies merveilles. Amen.